Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Bon, parlons des personnes âgées. On sait que le gouvernement a le projet de faire construire des maisons des aînés. Ce serait des sortes de CHSLD, mais disons beaucoup plus vivants, beaucoup plus lumineux à échelle humaine, disons ça comme ça. Et là, il y a un appel d'offres qui a été révélé par Radio-Canada. Le gouvernement veut doter chaque chambre de chaque maison des aînés d'une caméra de surveillance. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? En tout cas, ça fait lever beaucoup de sourcils. Le gériatre docteur David Lucier, qui est habitué à travailler avec les personnes âgées, évidemment, est au bout du fil. Salut, David.
Salut, Patrick.
Est-ce que c'est une bonne idée?
Ça dépend évidemment de ce qu'on veut en faire de cette caméra-là. Ce que j'ai compris, c'est que c'était surtout pour surveiller là, les résidents des maisons des aînés pendant qu'ils vont être dans leur lit ou qu'ils vont être assis sur une chaise peut-être et qu'ils vont être seuls dans la chambre. Si c'est ça l'objectif, je pense que c'est une bonne idée parce que ça peut augmenter leur sécurité si on peut vérifier et voir s'ils sont en train de se lever, par exemple, du lit pendant la nuit et que quelqu'un peut aller tout de suite les voir là, pour les empêcher de se lever et leur éviter une fracture de hanche ou une hémorragie cérébrale. Je pense que si c'est ça l'objectif, ça peut être une très, très bonne chose, oui.
Mais quand on pense personnes âgées et caméras au Québec ces dernières années, c'est surtout le fait de familles qui ont installé dans les chambres de leurs parents vieillissants là, des caméras à distance pour s'assurer que ces personnes-là ne soient pas victimes de vol ou de violence. Est-ce que c'est ça que le gouvernement veut, par la porte d'en arrière, essayer de surveiller?
Évidemment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'intention du gouvernement par la porte en arrière. Ça a été ma première réaction quand j'ai vu ça. Ça a été de dire, oh mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va si tous les employés dans toutes les maisons des aînés sont surveillés? Ça peut aussi être l'inverse. Hein? On pourrait aussi penser un peu comme les caméras des policiers, là, les body cams, ce qu'ils appellent,
oui.
Ça pourrait être pour montrer qu'il n'y a pas de maltraitance si c'était la maison des aînés qui a la caméra. Je pense que ça, il faut éviter ça. On veut pas commencer à surveiller tout le monde pendant son travail. Donc, cet objectif-là, je le trouve pas très louable. Je pense que ça insère une suspicion, ça rend les gens moins confiants, autant ceux qui vont aller se faire soigner que ceux qui travaillent là. Donc, ce but-là est moins louable. Mais si c'est pour éviter des chutes, parce que la meilleure façon d'éviter qu'une personne âgée dans un CHSLD tombe, ce serait d'être toujours assis à côté d'elle. Puis si elle veut se lever, on lui dit « Non, non, madame, restez assise. » Puis on l'aide à rester assise. Malheureusement, on peut pas faire ça, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Ce serait la meilleure chose. Comme on peut pas le faire, malheureusement, on va utiliser toutes sortes d'autres choses. Par exemple, un coussin où ça va sonner s'il se lève. C'est ce qu'on fait le plus fréquemment. Mais souvent, si le coussin sonne au bout du corridor, il est trop tard, puis la personne est déjà par terre le temps qu'on arrive. Donc, si avec, il parlait aussi de tapis, ce qu'on appelle les tapis, les détecteurs de mouvement, si on a le tapis ou le coussin et en plus la caméra, peut-être qu'on peut éviter des accidents et aussi, surtout, éviter d'avoir à utiliser ce qu'on appelle des contentions physiques, donc soit les attachés. On appelle ça une ceinture de rappel parce que c'est un mot qui fait moins peur, mais c'est vraiment d'attacher la personne là, dans sa chaise pour pas qu'elle puisse se lever ou dans son lit la nuit. Si on peut éviter ça avec la caméra, je pense que c'est une bonne chose.
Est-ce qu'il n'y a pas, puis là, David, là, tu connais mieux les personnes âgées que moi, ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger comme d'infantiliser les personnes âgées si elles sont filmées tout le temps dans leur chambre, dans leur intimité?
Mais il faut, encore là, il faut toujours se remettre à savoir qui va dans un CHSLD. 80% des personnes en CHSLD ont des problèmes cognitifs graves. Un très, très haut pourcentage sont des gens qui sont pas capables de sortir du lit seuls. Ou s'ils le font, c'est qu'ils vont le faire involontairement, puis ils vont tomber. La plupart des gens sont conscients de leur environnement jusqu'à une certaine limite. Donc, si on comprends que c'est des gens comme ça qui ont besoin d'une surveillance constante. Je pense que c'est on a moins ce danger d'infantilisation. C'est sûr que si on va dans une résidence pour personnes âgées où les gens sont totalement autonomes et qu'on se met à les filmer 24 heures par jour, c'est totalement inapproprié et personne ne voudrait ça. Mais si c'est dans un but de sécurité pour quelqu'un qui est fragile, je crois que ça peut être bénéfique et qu'on les infantilise moins. Et ça va aussi sécuriser les familles sûrement. Parce que les chutes, ça reste quand même dans les hôpitaux et dans les CHSLD un des accidents les plus fréquents et ça reste une des principales causes de mortalité aussi. Donc, si on peut les éviter, tant mieux.
Il y a le regroupement provincial des comités d'usagers qui se demande, qui pose une question intéressante dans l'article de Radio-Canada, là, à savoir, bon, si on le fait pour les maisons des aînés, ces maisons de nouveau genre là qu'on veut plus lumineuses, plus humaines, pourquoi est-ce qu'on le fait pas en CHSLD où il y a quand même des milliers de résidents quand même?
Ben, c'est toujours le même problème. Moi, quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est d'avoir deux classes de lieux d'hébergement avec les maisons des aînés qui vont être des lieux, comme tu dis, lumineux, où on va avoir des grands espaces, où on va avoir la technologie, et à côté, il va avoir le CHSLD où les gens vont avoir les mêmes soins qu'ils ont maintenant. Idéalement, oui, il faudrait faire la même chose dans les deux lieux. J'imagine que d'installer des caméras au plafond, parce que c'est ce que j'ai compris que c'était, là, des caméras au plafond dans tous les CHSLD, ce serait très complexe et très coûteux. On a vu ce que ça a fait installer les gicleurs. Là, ça a été beaucoup de travail. Il y a des endroits où c'est juste impossible. Donc, j'imagine que c'est pas possible. Mais j'espère que dans les CHSLD qu'on va rénover, on va le faire.
David, je suis curieux de connaître ton point de vue sur les maisons des aînés. Quand l'idée est sortie, il y a personne qui est contre la vertu, mais ce qu'on voit, c'est que, bon, la population est vieillissante et ces maisons des aînés vont coûter, semble-t-il, plus cher pour loger moins de gens. Est-ce que c'est une bonne idée?
Les maisons des aînés en soi, c'est une très bonne idée, justement parce que c'est des lieux qui sont plus humains, c'est des unités qui sont plus petites. On sort beaucoup de l'environnement institution où on a une grande unité avec des dizaines ou des fois 20, 30, 40, 50 résidents dans les chambres. Avec les maisons des aînés, on a des petites unités de 12 chambres, donc c'est beaucoup plus humain, on diminue le risque de maladie parce qu'on est petites unités. Donc, le concept des maisons des aînés, il est très, très, très bon. Le risque, comme je disais tantôt, c'est d'avoir deux classes de personnes hébergées. Maintenant, on voit que les coûts augmentent de plus en plus. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Mmh. Moi, je suis évidemment pas un spécialiste de coûts de construction, donc je peux pas dire est-ce qu'on aurait pu éviter ça. C'est certain que là, le coût commence à me déranger plus qu'avant, mais je ne sais pas s'il y a moyen de limiter certaines choses pour limiter les coûts. Mais le concept lui-même, c'est un très bon concept.
Les CHSLD sont sortis du plus fort de la pandémie avec, disons, une réputation égratignée. Est-ce que c'est une réputation qui est injuste?
C'est une réputation qui est injuste dans le sens où, dans les CHSLD, les soins qu'on a vécu pendant la pandémie, c'est pas la règle, c'est pas la norme dans les CHSLD. C'était vraiment une situation catastrophique où tout le monde était débordé, tout le monde avait de la bonne volonté, mais il n'y arrivait juste pas dans ce sens-là où c'est pas une réputation qui est méritée parce que c'est pas comme ça. Il y a des gens très dévoués dans les CHSLD, mais on a quand même des CHSLD qui sont très vétustes où on a un problème de personnel. Puis encore là, c'est pas seulement un problème de poste. Les postes sont là, mais comme partout ailleurs dans la société, il n'y a personne pour aller prendre ces emplois-là. Donc, la réputation était pas la réputation n'était pas tout à fait méritée parce que les soins peuvent être bons, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour rendre ces milieux-là plus humains. Il y a eu la politique sur l'hébergement et les soins de longue durée qui a été déposée cette année, qui veut en faire avec son plan d'action, qui veut faire que les CHSLD deviennent vraiment des milieux de vie avec des approches personnalisées. Donc, c'est vraiment l'approche que le gouvernement veut prendre. Il faudra voir en réalité, là, dans la vraie vie, comment ça va se matérialiser dans les prochaines années.
David, merci. Bonne fin de semaine.
Merci à toi aussi.
À la prochaine. David Lucier, médecin gériatre. Une caméra, par chambre dans les futures maisons des aînés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, moi, ma tête n'est pas faite là-dessus, je vous l'avoue. Je comprends tout le monde dans ce débat-là. D'un côté, la sécurité. De l'autre côté, la nécessaire intimité des résidents. Écrivez-moi, 98985.
Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Faudrait que tu fasses attention. Il va peut-être t'arriver quelque chose.
And it's important to remember right now that history does have its eyes on you. So get to work.
OK. Sujet sérieux, important dans cette chronique showbiz. L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film documentaire qui va sortir le 9 septembre prochain. Je vous salue, salope. C'est sur la haine en ligne. On sait tous qu'elle existe. Alexandre Pratt en parlait tantôt. Ça touche tout le monde. Ça touche particulièrement les femmes. C'est plus virulent. C'est toujours plus virulent quand ça concerne les femmes, qu'elles soient des femmes publiques ou pas. Et les deux documentaristes sont en studio. Léa Clermont-Dion, chercheuse postdoctorale en radicalisation à l'Université Concordia. Et Guylaine Marois, cinéaste depuis 20 ans. Léa, Guylaine, bonjour.
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 Première des choses, ben, félicitations. C'est un documentaire coup de poing. Je voulais savoir jusqu'à quel point ça a été compliqué parce que ce que vous faites au travers du documentaire, c'est que vous allez rencontrer des femmes, quatre femmes. Vous avez, c'est un peu comme un documentaire choral. Donc, il y a l'ex-présidente du Parlement italien, Laura Boldrini. Il y a Kia Morris, qui est une ex-représentante démocrate américaine. Marion Séclin, qui est comédienne et youtubeuse. Et il y a une Québécoise, elle est française, et il y a une Québécoise du nom de Laurence Graton, qui est enseignante, qui, elle, s'est fait harceler par un ancien collègue de classe. Je voulais savoir jusqu'à quel point ça a été peut-être complexe d'obtenir des confessions de la part de ces quatre femmes-là.
Mais je te dirais que ça a été extrêmement compliqué juste d'avoir un oui, parce qu'on s'entend qu'on est des réalisatrices québécoises qui cognent à la porte de l'ex-présidente du Parlement italien. Elle nous connaît pas. Donc, ça a été des mois, des fois, de persuasion pour qu'elles acceptent. Donna Zuckerberg, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, c'est la première fois qu'elle apparaissait dans un film et qu'elle disait des choses, disons, qui allaient à l'encontre de la vision de son frère. Mm-hmm. Donc, ça a été compliqué.
Puis aussi, une fois que les femmes ont accepté, c'est d'accepter qu'on les suive. Parce que, déjà, notre proposition, on se disait, on entend beaucoup parler de cyberharcèlement. On a commencé à travailler le sujet en 2015. On commençait un peu, là c'est encore pire. Mais on voulait pas que ce soit comme un autre fait divers. Alors, ça impliquait qu'on les suive, ces femmes, et qu'on vive avec elles ce qu'elles vivent,
mais,
en fait.
Mais comment vous avez trouvé ces femmes-là, ces histoires-là?
Beaucoup de recherches.
C'est des grosses histoires, là.
On s'était dit que c'était banalisé. À l'époque, quand on a commencé le projet en 2015, c'était extrêmement banalisé et on a fait des centaines et des centaines d'heures de recherches, oui. D'entrevues.
Une centaine d'entrevues, en fait.
Ah oui, OK, comme un casting.
Un casting, il fallait, puis il y avait des femmes qui vivaient différents types de cyberharcèlement et il fallait qu'elles assument aussi. Il y a des gens qu'on a écartés, des femmes qu'on a écartées parce que on se disait, est-ce qu'elles vont être capables de vivre avec
l'après? Oui.
OK, vous avez décidé de protéger certaines intervenantes.
Oui.
Il le fallait parce que c'était dangereux, puis on voulait pas non plus victimiser. Tu sais, on a une éthique de travail comme documentariste et on veut vraiment, le lien de confiance est important. Puis pour répondre à ta question, donc, quand on voyait, par exemple, dans un article du New York Times, l'histoire de Laura ou encore de Donna ou de Kaya, on se disait, OK, on va y aller. On s'est donné du temps. Et ça, c'est une clé pour un casting comme ça. Oui. Même, on avait demandé à la leader de Black Lives Matter, Patricia Cullors, de participer. Ça n'a pas été possible. Mais voilà, donc, beaucoup de travail.
C'est pas un phénomène nouveau. Et moi, c'est là que ça m'a frappé. Hein, parce que, bon, on sait que la misogynie existe, parfait. Mais à un moment donné, il y a cette parlementaire italienne qui témoigne. Il y a un fêlé dans la vie politique qui a mis un photomontage d'elle dans une voiture et qui a demandé à ses abonnés sur Facebook « Qu'est-ce que vous auriez envie de lui faire dans cette voiture-là? » Ça a été la déferlante. Évidemment, tous les sévices y sont passés. Mais vous avez une intellectuelle, Laurence Rossier, qui est une linguiste à l'Université de Bruxelles, qui a fait un parallèle avec ce qui est arrivé aux femmes au début du 20e siècle qui ont pris la rue pour demander le droit de vote. Les journaux publiaient des caricatures de femmes qui étaient torturées voici ce qu'on devrait leur faire à ces femmes-là. Donc, c'est un peu vieux comme le monde.
Oui, ben, je te dirais que moi, c'est ma plus grande constatation, ce que j'ai découvert en faisant la recherche, quand on a fait la recherche, c'est de découvrir que les droits des femmes, souvent, avancent à reculons, en fait. C'est que les femmes ont lutté pour des droits depuis l'aube des temps. Et à toutes les fois qu'elles acquièrent des nouveaux droits, ben, elles en perdent davantage par la suite. Et ça, c'est troublant. Parce qu'on se dit, ben, peut-être que ça se peut qu'on avance à reculons encore une fois. Donc, faut nous mettre en garde quand même.
Et je veux revenir au titre. Je vous salue Salope, qui fait référence évidemment à Je vous salue Marie, qui est la Vierge Marie, qui est censée incarner la pureté. Et si on va à l'envers de ça, ben souvent les insultes sont rapportées au sexe, hein, à l'impureté de tout ce qui a été véhiculé par la religion catholique. Pourquoi on ramène tout le temps les femmes à quelque chose de sexuel?
C'est une très bonne question, mais je pense que c'est, pour avoir étudié la question dans mes recherches, puis Laurence Rosier en parle aussi, c'est le contrôle du corps. Donc, on considère les femmes comme des objets et non des sujets. Donc, comment est-ce qu'on les contrôle? Ben, par la force physique. Alors, par la sexualité, on dit qu'elles sont mal baisées, qu'elles baissent trop, etc. On les remet finalement toujours à leur physique. Et c'est ça la grande distinction entre les insultes faites aux hommes et les insultes faites aux femmes. Et ça, c'est la racine de la misogynie. C'est la volonté de contrôler le corps, les fluides, les femmes, etc.
Et donc, l'accès à la sphère publique.
Et tout
parce
à fait.
Parce que
exactement.
C'est une façon de leur faire peur pour qu'elles se taisent et qu'elles disparaissent.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos protagonistes dans le film marchent dans la rue. On voulait les faire occuper l'espace public réel. Et à un moment donné, on se rend compte dans le film et on fait ressentir ça, comment la violence virtuelle est réelle. Et ça devient finalement un thriller psychologique, ce film-là. Et c'était justement ça. Occuper l'espace public comme femme, on le sait, ça a un prix. Et Marion Seclin, qui a reçu 40 000 menaces de mort, de viol. Elle est dans le film. Et c'est drôle, elle a fait une vidéo sur le harcèlement de rue. Et on l'a vilipendée et c'est horrible.
On l'a punie, en fait. Mm-hmm.
Mais en fait, elle dit quelque chose de très fort, Marion Seclin, là, qui est une comédienne, réalisatrice.
Youtubeuse aussi.
Et bon, en France, là, c'est un problème, le harcèlement de rue, semble-t-il. Elle fait une vidéo pour dénoncer ça. Et comme pour confirmer, il y a du harcèlement numérique qui lui tombe dessus. Vous l'avez dit, 40 000. Et elle dit... Pendant MeToo, moi, j'ai expliqué qu'adolescente, j'ai été victime d'un viol. Son chum de l'époque et les amis de son chum. Mais elle dit, le pire entre l'agression sexuelle et le cyberharcèlement.
C'est fou, hein?
Ça dit quelque chose. Ouais. On dit que c'est le monde virtuel, mais c'est très, très réel.
Absolument. Y a des spécialistes aussi qui nous disaient que c'est très difficile de guérir ou d'avoir une certaine résilience quand on est cyberharcelé. Parce que quand t'es en train de guérir, ben t'as une nouvelle attaque. Alors, le cycle de la guérison ne se fait pas.
Et ça ne s'efface jamais non plus.
En plus, ça s'efface jamais.
C'est ça le problème, c'est que ça reste. Ouais, et puis vous avez des gagnantes, mais des gens qui ont aussi eu des échecs. Il y a une dame qui travaille au Vermont qui a dû déménager parce qu'elle est attaquée physiquement dans sa maison.
Les extrémistes de droite.
Une autre, vous interviewez le père d'une jeune fille qui s'est suicidée, qui a été violée et qui a été cyber-attaquée parce qu'elle a été violée, ce qui est absolument dégueulasse, là. Est-ce que c'est important pour vous aussi de montrer qu'il y a encore du travail à faire parce que c'est pas tout le monde qui gagne en ce moment?
Ben, on voulait pas faire un film de Walt Disney.
Ouais, c'est pas une série américaine. Là,
ouais. Non, la réalité est telle qu'elle est et il y a des dommages collatéraux, il y a des gens dont leur vie sont ruinées et nous, le but, c'était vraiment de sensibiliser et d'ouvrir le dialogue. Glenn Canning a perdu sa fille, elle s'est suicidée suite à un viol collectif et un épisode de cyberharcèlement. C'est horrible. Donc, on voulait faire ressentir la haine dans ces dommages les plus tristes et les plus dévastateurs.
La vérité, finalement.
Oui.
Guylaine, qu'est-ce qui est urgent de faire, d'appliquer en termes de solutions? Ouais. Parce que ce vieux réflexe misogyne qui est ancré chez plusieurs hommes, ça, c'est une chose. Mais l'expression de cette misogynie-là, il y a certainement quelque chose à faire d'un point de vue technologique et juridique.
Ben oui, il y a des choses, puis on y a réfléchi, hein, Léa et moi, puis il va y avoir une pétition qui va être lancée aussi, on a des demandes concrètes. Mais la première chose, c'est d'amener tout ça à notre conscience. Puis c'est pour ça qu'on veut que les gens voient le film, parce que on veut que les gens puissent se mettre à la place de ces femmes-là, puis réaliser l'ampleur de la misogynie qui est en train de grandir et qui fait son chemin sur les réseaux sociaux. Mais pour les solutions, tu peux en parler, Léa?
Non, mais je pense aussi, pour enchérir là-dessus, c'est qu'un dépliant, ça va pas sensibiliser les jeunes. Une conférence faite par quelqu'un de désincarné, c'est moyen. Aller voir un film, ça a un impact sincère, concret, direct, et c'est là que le dialogue va commencer. Et je crois beaucoup à l'éducation. Ça, c'est une des solutions pour moi.
Est-ce que vous allez, par contre, peut-être prêcher à des convertis, des gens qui sont sympathisants à votre cause, au lieu d'aller peut-être changer les esprits de ceux qui devraient changer leur mentalité, dans le fond, non?
Ben là, on a une trentaine de salles quand même qui sont ouvertes. On probablement même Guzzo. Je veux dire, on va aller partout au Québec. Nous, on veut parler à tout le monde. C'est pas un film contre les hommes. C'est juste une critique de certains agissements qui sont inacceptables. Et pour revenir aux solutions, donc, si je peux me permettre, il doit y avoir plus de législation, mais on lance aussi un projet qui s'appelle Stop les cyberviolences, et on a créé un cours donc pour les étudiants au secondaire et au cégep pour la prévention des violences, parce qu'on trouvait que c'était nécessaire. Mmh. Aussi.
Mais il y a les GAFA qui font rien. Facebook fait rien, voilà. Google fait rien. Même en ce moment, quelqu'un écrit quelque chose d'odieux, essayez d'en faire enlever ça, bonne chance à tous. Là. Et ça, oui. Pensez-vous que ça peut se rendre? Je sais que tout le monde, je pense qu'il y a une petite lumière dans votre film en Italie, on a un peu plus contrôlé.
Exactement.
Ça.
Exactement, puis nous, on aimerait au Canada qu'on adopte une telle loi, en fait.
Qui est?
En Allemagne, en fait, c'est le seul pays dans le monde où est-ce qu'on a adopté cette loi, en fait. C'est une loi qui demande aux GAFAM, en fait, de retirer les propos haineux à l'intérieur de 24 heures sous peine d'une énorme amende.
Genre 50 millions de dollars.
Ils deviennent responsables, ce qu'ils ne sont pas en ce moment.
Exactement. Les responsabiliser comme ça, puis à la hauteur des profits qu'ils font avec cette haine. Parce qu'évidemment, cette haine est profitable.
Mais, juste une seconde. L'Allemagne, c'est un exemple.
Oui.
Puis, on regarde souvent ça en étant impressionné, les profits de Facebook et compagnie.
Oui, vraiment.
Mais Facebook fait beaucoup d'argent aussi parce que tu emploies très peu de personnes. C'est pas comme à l'époque où tu avais une chaîne de montage, tu employais du monde. Mais s'ils avaient plus de gens pour détecter les discours haineux et
les
bannir.
Ils exploitent en passant.
Ben oui.
C'est des gens exploités.
Oui,
il y a une chercheuse dans notre film qui s'appelle Sarah T. Roberts qui a tout démontré l'exploitation de ces gens-là. Mais il faudrait une volonté politique. Il faudrait qu'Ottawa se tienne debout. Il y a une loi sur les crimes haineux qui a été adoptée l'année dernière. Ben, il y a quelques années. Et c'est mou. Ça prend Justin Trudeau qui dit bonjour Mark Zuckerberg, on est des Canadiens et un instant, la haine, ça suffit. Parce qu'en ce moment, la haine, elle est légiférée par des modérateurs ailleurs du Québec qui ne comprennent pas nos réalités.
Ou des robots.
Ou des robots, ça n'a pas de bon sens.
Et je vais souligner, puis on va s'arrêter là-dessus, mais on va continuer la discussion après la pause. Là. Aux États-Unis, ils sont considérés, les fournisseurs de contenu comme ça, là, les Facebook et autres, c'est comme s'ils avaient l'aqueduc pour l'eau. Ils ne peuvent pas être tenus responsables des propos.
C'est tous les lobbies puissants
oui.
Je veux dire, c'est une question d'argent, mais il faut que ça cesse. Je veux dire, est-ce qu'on a des gouvernements qui sont vraiment des entités qui ont du pouvoir?
Juste avant, on va passer à la pause, mais au retour, j'aimerais beaucoup qu'on parle de Donna Zuckerberg, justement, en lien avec son frère qui dirige Facebook. C'est quand même un témoignage important que vous avez dans votre documentaire.
Presque 16h05. Je vous salue, salope. C'est le titre d'un documentaire qui va sortir le 9 septembre. Les deux documentaristes, Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois sont avec nous. C'est sur la misogynie en ligne.
Oui, je voulais revenir, entre autres, parce que dans votre film, vous présentez un témoignage de Donna Zuckerberg, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, qui dirige Facebook. Je regardais le témoignage de la dame. Je me disais, c'est quand même ironique de voir que cette femme-là milite contre la misogynie en ligne, puis son frère est celui qui en propage le plus, probablement.
Il fait le plus d'argent que ça.
Ben oui, c'est fascinant. Comment ça qu'elle se fait si rare, cette femme, puis justement, vous l'avez convaincue comment?
En fait, elle a voulu se dissocier. Elle, c'est la seule dans sa famille qui ne travaille pas pour le tech ou qui est pas à Silicon Valley. Elle est à Silicon Valley physiquement, mais elle a décidé de ne pas être dans les affaires de son frère. Et c'est une spécialiste de l'Antiquité. Alors, c'est vraiment une intellectuelle qui s'intéresse à la Grèce antique. Et elle a remarqué, en publiant un article sur un blog, qu'il avait été relayé beaucoup parce qu'il y a beaucoup de membres de l'alt-right, donc des misogynes, des gens qui sont des ultra-conservateurs aux États-Unis, qui ont une fascination pour la Grèce antique. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on devrait retourner à la Grèce antique où les femmes n'étaient pas au pouvoir et où il y avait aussi des esclaves. Hein? Donc, dans ce temps-là, ça se passait bien. Alors, c'est comme ça qu'elle a remarqué qu'il y avait une montée de la misogynie et que ça avait pas de bon sens. Donc, elle s'est intéressée à ça.
Donc, c'est vraiment en ligne aussi qu'elle étudie ça. Puis, elle a un livre très intéressant qui s'appelle « Not All Dead White Men ». Puis, moi, je la cite dans ma thèse de doctorat qui portait aussi sur cette question-là. Et Donna, elle est extrêmement courageuse de parler. Ça a été difficile de la convaincre encore une fois. C'est sa première apparition. Elle n'avait jamais parlé contre son frère. Et dans le film, elle parle contre Facebook et elle dit « Les GAFAM ont une responsabilité. Il est temps d'agir. » Parce que il faut comprendre que nous, on présente certains misogynes en ligne, mais on présente pas tout non plus. Il y a des gens qui vont jusqu'à menacer, tuer, par exemple, les célibataires involontaires. Alex Minassian qui avait fait cet attentat en 2018, qui avait tué des femmes et des hommes, mais il ciblait des femmes. Donc, au continuum des violences, tu as des adeptes de Marc Lépine aussi.
Et ça, c'est ton héros, Marc Lépine.
Je veux absolument le dire, vous avez reçu des menaces aussi, vous aussi.
Oui.
C'est fascinant.
Parce qu'on faisait ce film-là.
Oui, parce que vous faisiez le documentaire.
Oui, on a eu des appels anonymes. Moi, il y a quelqu'un qui a écrit à mon département pour dire que j'étais indigne de faire une thèse de doctorat sur la question. On a eu des menaces.
Oui, surtout en début de parcours, parce qu'il y avait eu une annonce que le film se faisait. Donc, c'est là que ça a été plus troublant. Puis après, ben.
Juste l'annonce a fait sortir des commentaires haineux.
Oui. Mais j'ai une question pour vous.
Il y a du monde qui s'en visé.
Est-ce que...
Exactement.
Est-ce que vous dites qu'il y a une montée de la misogynie. Est-ce que je vais me permettre une hypothèse? Est-ce que la misogynie n'a pas toujours été présente? Il y a des nouvelles plateformes qui font que ces misogynes-là peuvent le dire. C'est pas plus ça.
Mais ce que dit Zuckerberg, c'est que ça a amplifié la misogynie à des nouveaux niveaux de violence.
Parce que les gens se sont mis en contact les uns avec les autres, peut-être.
Moi, je pense qu'il y a une montée parce que, et il y a une montée, en fait, les grandes organisations internationales nous disent, il y a une montée, il y a une prolifération parce que l'outil numérique permet de faire croître les discours. Et par exemple, t'as des alpha males qui sont aussi des grands adeptes misogynes, qui sont maintenant sur TikTok, comme Andrew Tate, etc. Mmh. Et c'est une pensée qui est en croissance et qui est maintenant, complètement répandue et assumée.
Ce qui le virus est sorti de la fiole. Merci
c'est
beaucoup.
Ça.
Ça sort le 9 septembre. Je vous salue, salope. Merci d'être venu nous voir en studio.
Merci beaucoup.
Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois, les deux cinéastes. Un film très, très intéressant, mais aussi très effrayant sur l'époque actuelle.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Des images à glacer le sang là, qui nous sont parvenues d'Argentine, pays d'Amérique du Sud, et une vice-présidente du nom de Cristina Kirchner. Elle sortait de chez elle, accueillie par des militants de son parti. Je crois qu'elle s'en allait à un procès. Elle est accusée de fraude dans ce pays-là. Et là, il y a une foule, il y a un bras qui sort, et on voit le bras qui tient une arme à feu. Le type essaie de tirer à bout portant sur la vice-présidente et l'arme s'enraye. Si l'arme ne s'était pas enrayée, ben Madame Kirchner aurait été tuée comme ça devant les caméras, devant une foule nombreuse. Jorge Contreras est journaliste et recherchiste ici au 98.5, connaît bien ce coin du monde. Salut Jorge.
Salut Patrick.
D'abord, raconte-nous qui est Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner, c'est vraiment une femme d'État en Argentine, avec beaucoup de pouvoir. De 2003 à 2007, elle devient première dame sous l'époque de Néstor Kirchner. Elle est tellement aimée par le pays qu'en 2007, elle devient présidente jusqu'en 2015. Ça a été la première femme qui a été élue à la présidence de l'Argentine. C'est pas la première qui a occupé le pouvoir. C'est Isabel Perón qui l'a faite suite à la mort de Juan Perón. Et en 2019, elle devient la vice-présidente et les colistières avec Alberto Fernández. Pendant sa présidence, elle a permis le mariage de personnes de même sexe, l'identité de genre, le changement de sexe payé par l'État. Elle s'est approchée beaucoup du Venezuela, de la Russie, de l'Iran, de la Chine, mais aussi Après ça, elle a été jugée pour de la corruption.
OK, on a vu les images hier, Jorge, et qui est l'homme qui a tenté de l'assassiner? Qu'est-ce qu'on sait sur lui?
Alors, lui, c'est un homme qui s'appelle Fernando Andrés Abag Montiel. Il a 35 ans, il est de nationalité brésilienne, d'une mère argentine et d'un père chilien. Il vivait en Argentine depuis 1993. Il a été arrêté le 17 mars 2021 pour port d'armes. Et selon les médias locaux, apparemment, qui serait porteur de tatouages nazis.
Et je pense, si je ne me trompe pas, Mme Kirchner, son parti, c'est un parti de gauche.
C'est ça. Okay. Elle représente le péronisme.
Est-ce qu'il y a une tradition, là, dans l'ère moderne, on sait qu'il y a eu une dictature en Argentine, mais dans les 20 dernières années, est-ce qu'il y a une tradition de polarisation violente dans ce pays-là?
Bien, c'est sûr que, et on parle maintenant de la gauche et la droite, comme ça arrive un peu ici au Québec, c'est la même chose aux en Amérique latine. Oui, c'est polarisé. Aujourd'hui, l'Argentine est très polarisée, donc ça donne à de la haine dans les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, c'est parce qu'elle est accusée de malversation de fonds, dans le fond. Là. Mm-hmm. Puis, ses partisans ont descendu depuis les 11 derniers jours devant chez elle pour montrer l'appui. Donc, elle sortait,
pour l'encourager.
Ouais. Alors, c'est ce qu'elle faisait, c'est qu'elle sortait de chez elle, elle allait voir ses partisans pour le remercier dans le fond, et c'est ce qui est arrivé hier. C'est ce qu'on peut voir dans la vidéo.
Écoute, accusé ou pas, c'est pas la façon de régler les cas en démocratie, on se comprend. Merci beaucoup, Jorge Contreras.
Ça me fait plaisir.
Jorge, journaliste et aussi collaborateur ici au 98.5, recherchiste sur plusieurs émissions, dont celle-ci de temps en temps. Et évidemment, la séquence vidéo là qui fait le tour des réseaux, ben ça rappelle ce qui s'est passé au Metropolis. Pourquoi? Parce que l'arme s'est enrayée quand le tireur a voulu abattre Mme Kirchner en Argentine. Il y a eu un mort, il y a eu des blessés, des traumatisés au Metropolis en 2012. On va souligner le 10e anniversaire de l'attentat sur Mme Marois dans 2 jours. Mais écoutez, on a été chanceux aussi parce que l'arme du tireur au Metropolis s'est aussi enrayée.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, ici. Très loin, là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Art et spectacle.
Le Québec maintenant.
Voici Catherine Beauchamp.
Pour une dernière fois, avant de m'en aller, j'aimerais connaître encore les mots que tu murmures.
Pour une dernière fois, c'est ce que Dan Bigras doit se dire à l'approche du dernier show du refuge qu'il va organiser. Ça a été une belle aventure, une aventure humaine, une aventure qui nous a permis, Catherine, de mieux comprendre les jeunes de la rue, de les humaniser depuis 32 ans.
Quand on dit qu'une personnalité fait bien, remplit bien son mandat de porte-parole, je pense que c'est le cas de Dan Bigras, on a décidé de l'inviter. Il est au bout du fil. Bonjour, Dan.
Allô, Catherine. Salut, Pat.
Salut.
J'ai hésité entre mettre du Jerry Boulet ou mettre du Dan Bigras. Je trouve que la nouvelle, elle est triste d'apprendre que tu quittes le refuge. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre?
Ça m'a pris des années avant de la prendre. J'ai signifié officiellement ma démission au mois de mars passé. Fait qu'il y a un bout de chemin déjà. Hier, ça a été un peu, j'avais l'humeur un peu bipolaire parce que ça se concrétise beaucoup par le fait d'en parler à la radio, avec les médias. Et puis, aujourd'hui, ça va mieux. Fait que je me promène beaucoup, par exemple, entre, oui, la tristesse, enfin, son deuil, quelque chose d'important que j'ai quand même fait la moitié de ma vie. J'ai fait 32 ans, j'en ai 64. Mais il y a aussi, il faut que je dise, une bouffée de soulagement aussi.
Pourquoi?
Ça devenait lourd. Le show a grossi beaucoup d'année en année, puis c'était ça mon but, pour aller chercher plus d'argent pour le refuge. Fait que j'ai un peu tiré tout le monde de force pour que ça grossisse, mais c'est c'est un show, les plus gros shows, ils ont des équipes de recherche. Puis des, moi, je voulais pas de ça. J'ai monté le show comme je montais mes shows dans les bars. Quand tu joues dans les bars de blues, tu connais 30 tonnes de blues, tu joues avec n'importe qui, n'importe quand. Fait que c'est un peu comme ça que je voulais le faire. Donc, c'est moi qui appelais les artistes tout le temps, personnellement. Puis j'aurais pu déléguer plus. Je pense que je suis en grande partie responsable de ça. Mais en même temps, quand ça fonctionne bien comme ça, t'as peur de changer quelque chose, tu comprends? Puis que le show soit moins personnel. Puis j'ai eu une belle liberté là, de Radio-Canada pour faire ça comme je voulais. Alors, c'était difficile. J'attends qu'à un moment donné, je m'aperçois que c'est lourd un peu. Puis on a dépassé de santé dans ma famille. Où est-ce que l'anxiété a passé 60 ans? C'est pas une bonne idée chez nous. Fait que j'ai décidé que je là, c'était le temps.
Mais Dan, ça m'a étonné, je t'ai entendu chez Paul ce matin, ça m'a étonné de t'entendre parler du trac qui ne diminue pas avec les années. T'es un professionnel de la scène et t'étais encore nerveux à l'idée de faire ce show-là?
J'ai zéro trac dans mes shows à moi. Mais si j'ai passé 32 ans, dire si je donne un mauvais show, le show peut être cancellé puis le refuge va fermer. Tu comprends? Ça, ouais. c'est pas la même chose. Si un jour je donne un mauvais show, ben j'ai mal préparé mes affaires, je vais en payer les conséquences, mais moi-même. Puis c'est tout. Puis après ça, si je recommence à donner des meilleurs shows, ben à un moment donné, ben ça reviendra. Il y aura des meilleures critiques puis plus de monde dans mes salles. Ça, c'est les règles avec lesquelles moi je compose tous les jours de ma vie. Puis ça me va très, très bien. Je suis zéro trac que je remarque pour mes shows. C'est une récompense. Comme un tour de manège, on a tout hâte de monter, ma gang puis moi. Là, on attend de monter sur le bord du stage, puis on est bien content. Le show du refuge, des grosses conséquences. Puis il y a des choses quand tu vas fouiller dans ton passé aussi que tu trouves. Je ne suis pas ramassé au refuge pour rien. C'est évident que le fait, quand j'étais jeune, d'avoir ramassé le cadavre de mon petit frère dans un fossé, par exemple, a joué, m'a rapproché, même si j'étais déjà proche de jeunes comme ça. Parce que moi, c'est pas juste la rue qui m'impressionne, c'est le chemin qui mène à partir de chez vous. Comment ça, tu te rends jusque-là, tu sais? Alors, il y avait quelque chose je sais pas, je vais au psychanalyste du dimanche, là, ça me fatigue, ça, mais j'aurais pu maltraiter mon petit frère de cette façon-là. Je te le dis en symbole, là, comme ça. Fait qu'il y avait tout ça qui était tout le temps là, c'était tout le temps un peu plus lourd que simplement avoir le plus bel job du monde, c'est-à-dire faire de la musique, aller chanter tes tunes, puis le monde est devant toi, puis il trippe. Ça, c'est une récompense, ça.
Mais le fait, Dan, d'avoir... Tu sais, je comprends quand tu parles de tes démons et tout ça, mais le fait d'avoir aidé des gens à s'en sortir, est-ce que ça mettait un baume sur cette douleur-là?
Ça, c'est le refuge. Ça, c'est le refuge.
Ben, tu l'as fait aussi par en arrière en même temps, parce que ça vient de toi, cette volonté-là d'aider le refuge. T'as quand même donné de l'aide là, autour de tout ça.
Le show est pour le refuge, mais quand ma façon de porte-parler était... parce que dès ma première entrevue avec Paul Arcand sous d'autres ondes il y a 32 ans, on recevait beaucoup d'appels, il n'y a pas d'internet dans ce temps-là, puis c'était tout, il faut les mettre en prison, c'est des bandits. Comment ça se fait que le monde ne voit pas que c'est juste des kids qui souffrent, qui ont été maltraités, puis à 16 ans, ça devient tout de leur faute, t'sais. Fait que je dis, ça s'appelle des préjugés, puis on en a tous jugé avant de savoir, on fait toute cette erreur-là, on se corrige quand on le sait. Puis je dis, ma job, c'est pas d'engueuler le monde, mais je vais leur montrer que ces kids-là sont des humains, puis qu'il faut les regarder dans les yeux au lieu de les mépriser. Puis ça, j'ai vu, remarque, on est une maudite gang à faire ça là, depuis 32 ans, mais j'ai vu le regard des gens en moyenne beaucoup changer. Ça m'a fait du bien. Ceci dit, il y a des choses qui rempirent. Tu sais, là, si on parle d'éducation, tu vas me pomper tout de suite, je vais partir, puis je vais avoir les mêmes colères que d'habitude. Aussitôt qu'on permet à des gens de ne pas payer leurs impôts, des gens extrêmement riches, il y a beaucoup de notre argent qui devrait servir à s'occuper de nos jeunes qui vont pas. Moi, j'ai un chum qui enseigne, puis il sait dans sa classe lequel petite fille est tripotée, puis lequel petit gars est battu chez eux. On signale à des PJ, mais ils sont pas venus. Parce qu'ils ont pas assez de staff, parce que tout ça est déficient. Fait qu'on n'arrête pas de fabriquer des enfants foutus. Ça, c'est dur à regarder tous les jours.
J'ai deux questions rapides pour revenir à l'organisation du show du refuge. Est-ce que le show du refuge va continuer sans toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reprend le puck?
Moi, je discute beaucoup avec Marc, arrêter Marc Torsner qui est au refuge, qui a toujours été un peu l'agent de liaison entre le refuge puis moi le show. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations dans cette affaire-là, qu'on faisait ça ensemble beaucoup. Je crois qu'ils voudront peut-être faire un show qui soit télévisé ou non, je ne sais pas. Mais théoriquement, je suggère pas ça si facilement. Coûte cher quand même. Évidemment, c'est tout le plus cher. C'est les caméras puis tout ça. Puis là, il n'y en a pas, mais c'est quand même du son, de l'éclairage, la salle qu'il faut louer, puis tout ça, il y a quand même des dépenses. Mais dans le cas du refuge, c'est différent parce qu'en 32 ans, on a réussi à monter une belle structure corporative. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des sous, puis qu'au lieu de les cacher pour payer leurs impôts, ils payent leurs impôts aux autres, puis ils viennent aider au refuge. Ils achètent des billets très chers, et puis ils viennent faire la vaisselle au refuge, ils viennent servir des repas, ils viennent faire le lit, ils viennent faire ces affaires-là. Je leur parlais à chaque année avant COVID. Puis fait que c'est vraiment une belle gang, puis ils sont là. Fait qu'ils peuvent continuer, puis le refuge a plusieurs millions de côté maintenant, évidemment. Ils ne peuvent pas vivre 15 ans avec ça, là. Faut qu'ils continuent. Je leur ai dit, je ne ferai pas ma belle-mère. Je vous fais un show, puis ça fait, je ne sais pas, c'est plus mes affaires. Mais j'ai dit à Marc, la minute que tu as besoin de moi, tu m'appelles tout de suite. Immédiatement, je suis là, je te réponds 24 heures.
Ben moi, je vais faire ma part, Dan, parce que tu m'avais convaincu d'acheter des billets, surtout pendant les années de pandémie, c'était des billets virtuels. Puis ben, je vais le refaire cette année. Ça me fait plaisir d'aider à cette cause. Puis si tu veux, je vais nommer les invités. Ginette Renaud, Samian qui sera là, Loulou Hughes, qui est une habituée, Guylaine Tanguay, Marie-Nicole Lemieux, Luce Dufault, Isabelle Boulay, Yves Lambert vont être à tes côtés le 13 octobre pour l'enregistrement. Et on pourra voir, oui, évidemment, l'émission plus tard à Radio-Canada. Mais achetez des billets. Acheter des billets, c'est, oui, la meilleure façon d'aider.
Oui, puis nous autres, ça va nous encourager à donner le meilleur son possible. Puis moi, ma job ne se termine pas au show. Elle se termine, ben, c'est parce qu'il y a le montage. Ben, la dernière étape, c'est le mix au show. Sous Piccolo avec un ingénieur, on est juste deux. J'ai toujours une nostalgie à chaque fois qu'on finit le mix. Là, c'est fini. Mais là, ça va être fini pour toujours.
Dan, je vais te lire le message d'un auditeur qui vient d'arriver dans messagerie. Yannick est travailleur de rue et c'est grâce au film de Dan Bigra, La rage de l'ange.
Oh, ça c'est touchant ça.
Merci Dan.
Ça c'est touchant. Merci à vous trois. Salut McGill. on dit pas au MC d'eau.
Merci Dan Bigra.
Merci Dan.
Salut Dan.
Bye.
Merci beaucoup.
Bye. Dan Bigra, ce sera son dernier show du refuge au mois d'octobre.
Si tu me surprends à fermer les fenêtres parce que le bruit des enfants me monte à la tête, tue-moi. Tu me tueras. Si tu t'en vas simplement.
Patrick Lagacé en accéléré.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.